Alors, Monsieur Capot.
Présent.
Madame Giorgetti, représentée. Monsieur Jam.
Présent.
Madame Cabas, elle va arriver. Monsieur Chrétien.
Présent.
Madame Rouquayrol, représentée. Monsieur Depont.
Présent.
Monsieur Barascude.
Présent.
Monsieur Bail.
Présent.
Monsieur Boyer.
Présent.
Monsieur Crespi.
Présent.
Madame Gombert, représentée. Monsieur Guédan, il est censé arriver à 19h30, il a des cols au lycée Joffre. Madame Jana.
Présent.
Madame Lagrifolle.
Présent.
Monsieur Masson.
Présent.
Monsieur Raymond, représenté. Ah non, je n'ai pas de pouvoir de Monsieur Raymond. Ah, c'est Sophie Gary-Rivin qui a, donc on va attendre 2 minutes. Madame Rivin, qu'elle va arriver. Madame Serre.
Présent.
Madame Thomas.
Présent.
Madame Tourolier.
Présent.
Monsieur Bourrelli.
Présent.
Madame Gelsomino, représentée.
Eh bien voilà.
Très bien. Monsieur Raymond, donc, représenté. Madame Rivin, présente. Madame Gelsomino, représentée. Monsieur Prosperi.
Présent.
Monsieur Bor.
Présent.
Madame Dolin.
Présent.
Donc, nous avons le quorum. Nous allons donc pouvoir délibérer. Pour commencer, on va élire un secrétaire de séance. Je vous propose ce soir Madame Véronique Jana. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, Véronique.
C'est Marie-Hélène.
Bien, nous allons commencer d'abord par l'approbation du PV du Conseil municipal, donc du 30 septembre 2021. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce procès-verbal du Conseil municipal? Non?
Oui.
Monsieur Bor.
Deux petites remarques. Il me semble qu'il y a une erreur sur le nombre de conseillers présents ou représentés, 26. Il me semble que c'est 27.
Oui, c'est sûr que c'est 27.
Donc c'est une erreur.
C'est une erreur.
Voilà, ça c'est la deuxième de la soirée. Autre erreur. Sur le site de la ville de Montferrier-sur-Lez, je lis « La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le jeudi 25 novembre à 19h30 au Devezou. » C'est 19h, me semble-t-il. Et pire, c'est qu'il n'y a rien sur la page Facebook de la mairie pour annoncer ce conseil municipal.
Ça a été annoncé sur la page de Facebook de la mairie?
Non, il n'a pas été annoncé. Vous nous excuserez avec le contexte sanitaire actuel aux écoles, Monsieur Bor, nous avons d'autres choses à...
Mais je ne vous excuse pas pour 19h30 par contre.
19h30, ça a été fixé la dernière fois, mais il y a eu pas mal de gens qui ont demandé à ce que ce soit reporté à 19h. Donc du coup, nous l'avons fait à 19h. Après, si on décide que ça soit définitivement à 19h30, il n'y aura plus de discussion possible. Le conseil aura lieu tous les jeudis. Chaque fois qu'il aura lieu un jeudi, aura lieu à 19h30. Qu'est-ce que vous êtes, tout le monde est d'accord? 19h30, ça va à tout le monde? Donc à partir d'aujourd'hui, de ce conseil, il n'y aura pas de discussion. Ça sera systématiquement à 19h30 le jeudi où il y aura conseil municipal. Moi, j'essaye d'arranger un petit peu tout le monde.
Oui, merci également de commencer à l'heure, s'il vous plaît. On va commencer à 19h15.
19h15, tu l'as marqué, Véronique?
Oui.
Ça devient pénible, hein?
On n'a pas été élu pour ça. Hein.
Ça commence à devenir pénible, sérieusement. Hein.
C'est l'heure.
Ah oui, l'heure, c'est l'heure.
Donc je passe au vote pour l'approbation de ce PV du Conseil municipal du 30 septembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc nous allons dérouler l'ordre du jour de ce Conseil. Le premier point de ce Conseil, ce sont les tarifs de la classe de neige. Donc, comme vous le savez, nous avons une classe de neige qui est organisée au sein de la commune avec les élèves de l'élémentaire et les enfants partiront du 26 janvier au 4 février au Grand Ornans par l'intermédiaire de la société Cap Monde. Nous avons 53 enfants qui s'en vont avec deux enseignants, deux accompagnateurs. Cette classe de neige est restée avec Cap Monde, puisque c'était un engagement que nous avions avec cette société, puisque entre-temps nous avons eu la Covid et que nous avons dû supprimer la classe de neige l'année dernière. Donc il était inscrit dans le contrat que nous reportions cette classe de neige avec cette société. Donc nous l'avons maintenue. Et donc, comme vous avez pu le lire, nous avons donc 53 enfants et un coût global pour chaque enfant de 710 euros. Là-dedans, vous avez évidemment la demi-journée de travail, puisque les enfants partent ce temps-là, mais continuent l'école. Donc, une demi-journée d'école, vous avez du ski, vous avez des raquettes, vous avez des fermes pédagogiques, vous avez des retraites au flambeau, enfin, beaucoup d'animation pour tous ces enfants pendant cette période-là. Aujourd'hui, nous votons les tarifs de classe de neige 2022, et donc ces tarifs se répartissent en deux tranches. Les familles qui ont un quotient familial en dessous de 7 000 euros participeront à hauteur de 210 euros et les familles qui auront un coefficient familial au-dessus de 7 000 euros participeront pour 300 euros. Avant de voter, je voudrais savoir si vous avez des questions.
Oui, Madame le maire. Nous avons exactement la même question des différents tarifs que nous avons déjà discutés à maintes reprises. Sur le fait que vous reconduisez systématiquement les tarifs anciens sans reposer la question du problème des tranches, du problème du montant et de la participation des familles. Nous avions, il me semble, lors des précédents conseils municipaux, dit qu'il y aurait un groupe de travail qui s'engagerait à réfléchir à ce sujet sur le coût des services que la commune offre aux citoyens. Je pense que dans le cas présent, hélas, nous voterons contre, puisque les choses n'évoluent pas, et n'ayant pas entendu la moindre démarche ou tentative d'évolution, nous voterons contre ces tarifs pour cette fois-ci.
Nous sommes beaucoup occupés depuis la rentrée de septembre au niveau de l'école, parce que nous avions le problème du traiteur à régler, nous avions un gros cahier des charges à monter pour avoir le contrat signé au mois de janvier et lancer donc un appel d'offres avec ce nouveau traiteur. Donc il est vrai que nous avons été très pris, M. Chrétien et moi-même, et d'autres, sur ce contrat traiteur. Donc nous n'avons pas mis en place, je le reconnais, ce groupe de travail, mais il n'y a aucun problème, il sera mis en place, tant au niveau de la classe de neige, qui peut-être n'existera plus dans quelques années, hein, peut-être qu'on la supprimera pour une classe rousse ou une classe verte, parce que la neige, soit pour la classe de neige, pour les tarifs cantine, mais nous en avons déjà parlé, M. Prosperi, les tarifs cantine au cours d'une réunion, et sur les tarifs du centre de loisirs aussi. Donc nous ferons une réunion regroupant les trois coûts induits pour la mairie.
Le maire, donc même remarque de notre côté, nous avions demandé à ce que les tarifs soient retravaillés ensemble, proposer peut-être 3 voire 4 tranches pour pouvoir plus aider les plus nécessiteux. Donc je vote contre ces tarifs pour les raisons qui ont été dites.
Donc nous passons au vote. Donc qui est contre ? 5 votes contre. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Le deuxième point concerne la subvention à la crèche Les Câlins. Je vais donc laisser M. Capot vous exposer rapidement cette subvention que nous avons déjà votée l'année dernière. C'est exactement la même.
Oui, comme chaque année, on va être amené lors du vote du budget 2022 de voter les subventions donc aux associations et à la crèche Les Câlins. Donc, je vous rappelle que la subvention de la crèche est de 65 000 euros par an. Toutefois, pour leur permettre de pouvoir fonctionner et avoir de la trésorerie, parce que les subventions sont versées plutôt vers le mois de juin, donc comme chaque année, on leur verse une avance de subvention de 35 000 euros, comme je vous le disais, pour leur permettre de fonctionner normalement. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça.
Est-ce que vous avez des questions?
Oui, il y a des questions sur ce point particulier?
Oui, donc on est plutôt sur une avance de subvention plutôt qu'une subvention à proprement parler.
Tout à fait, c'est tout
donc,
à fait ça.
Peut-être
tout à fait ça.
Rephraser le point 2. Et deuxième élément, quelle est la part qui est reversée par la CAF?
Alors écoutez, la CAF, globalement, avec le service enfant-jeunesse, on perçoit à peu près 90 000 euros par an. Je pense que la subvention, alors je n'ai pas le montant exact, mais je pense qu'elle doit être de l'ordre de 40 000 euros, je pense. Hein, c'est ça, hein, il y a 25 000 euros qui restent à la charge de la commune. Hein, voilà. Bon, en sachant quand même que, en plus de la subvention, il y a quand même le local qui leur est attribué gratuitement. Et quand ils font leur demande de subvention, ils valorisent cette somme qu'ils ne paient pas. Hein, voilà.
Madame Gola, sur le point de subvention, c'est vrai qu'il est marqué subvention, mais en dessous dans la phrase, une avance sur la subvention, hein, ça a été écrit.
L'an dernier, ça avait été marqué de la même manière.
Ouais. Ok. Ok. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour la crèche des câlins. Troisième point, le règlement des marchés de la commune de Montferrier. Donc, nous vous avons fait passer le règlement qui a été travaillé avec un groupe. Dans ce groupe, nous avions M. Bord et M. Prosperi, nous avions des élus, M. Barascude et moi-même, et nous avions deux, parfois trois commerçants qui sont venus se joindre à nous pour cette réflexion. Donc, nous avons amendé ce règlement d'une façon correcte pour essayer de pouvoir satisfaire un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, nous aimerions bien mettre en place ce règlement parce qu'il n'y en a jamais eu sur le marché de Montferrier. Donc on aimerait mettre en place ce règlement pour pouvoir arriver à gérer beaucoup plus facilement tous les commerçants. Et vous verrez dans le point suivant que nous allons mettre en place une tarification parce que je pense qu'il est très utile de faire payer un petit peu les commerçants. Donc, vous avez lu ce règlement. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce règlement?
Oui, bon, même si j'ai participé au vote en rapport, pas de souci, mais deux ou trois petites précisions. Dans l'article 7, Bruno, dit que les commerçants doivent être présents avant 8h30. Et pourquoi pas avant 8h, puisque le marché ouvre au public à 8h?
Parce que c'est un petit marché, parce qu'il y a des retardataires. Je l'ai fait aussi par rapport à quelques commerçants. La CSN des Olives, par exemple, et elle arrive à 2h ou le quart, le moment où quand il lui vient parler, il y a un problème avec son gamin, 8h30, c'est bon, parce que si un jour on a gagné le marché, il faut laisser le temps à tout le monde de venir pour pouvoir installer notre forêt.
Donc, la même question pour la fin du marché, le 12h, pourquoi pas 13h, c'est la même réponse.
Oui, c'est vrai. Les poissonniers, Christophe, tarde demain à remballer.
D'accord. L'article 11, qui compose la commission consultative des marchés?
Deux.
Il y a les commerçants.
D'accord. Et qui peut le savoir?
Ben, vous aurez un élu de chez vous, un élu du groupe de M. Borrelli, et puis le maire et M. Barascu.
D'accord.
Vous avez demandé ce qu'on l'a dit?
Oui.
On l'a fait.
C'est ça. Très bien. Alors, à l'article 28, il est interdit aux exposants de stationner dans les allées. Pourtant, il y a nombre de commerçants qui stationnent. Je vois le boucher le mardi ou le poissonnier le samedi.
C'est pour éviter que chacun mette ses chevaliers de partout. C'est pour ça que normalement, on n'a pas le droit. Alors, tu peux tolérer des choses, mais normalement, on n'a pas le droit. de mettre, si chacun sort son cheval au milieu, tu peux embrocher les gens, c'est pas bon. Il y a Nicolas qui à ce moment, il met un tapis, c'est limite. Si papy et mamie s'approchent les gens, on a commandé les goulottes pour les filles, pour être vraiment dans les règles, pour pas que personne ne tombe, ça, je ne veux pas tarder.
Les voitures, monsieur Bor, les véhicules ne sont pas stationnés dans les allées. Ils sont stationnés sur les côtés derrière l'étal. Dans les allées, vous avez le passage normal de la clientèle. Les allées, c'est vraiment le centre de la place autour et au milieu, dans l'espace où il y a les bancs. Là, vous avez les véhicules et les étals des commerçants. Et on ne voulait pas qu'ils se mettent justement dans les allées, qu'ils avancent pour casser le rythme du passage des clients.
Ok, merci.
C'est bon, donc nous allons passer au vote sur ce règlement du marché. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. L'ordre, le point suivant, c'est donc la mise en place de tarifs de droits de place. Donc, nous avons voulu mettre des droits de place pas très élevés, mais on voulait que les commerçants se sentent un petit peu responsables de cette place et de l'utilisation qu'ils en font. Donc nous avons réfléchi dans le groupe là, que nous avons, avec lequel nous avons travaillé, et nous avons décidé de mettre un prix pour les mètres linéaires correspondant à chaque commerçant, et nous avons décidé de rajouter un petit quelque chose pour ceux qui utilisent l'électricité payée par la mairie. Donc comme vous pouvez le voir, la différence, 1,50 m le mètre linéaire pour les emplacements qui sont là à l'année, c'est-à-dire nos commerçants actuels, hein, qu'on voit quasiment tous les samedis, c'est-à-dire plus de 45 semaines par an. Donc ceux-là paieront 1,50 € le mètre linéaire. Et pour ceux qui utilisent l'électricité, 1,80 €, donc 30 centimes de plus. Ensuite, pour les occasionnels, ces gens-là paieront 2,50 € le mètre linéaire et bien entendu, s'ils doivent utiliser de l'électricité, 2,80 €. Voilà, on a pensé qu'il était important que tout le monde se prenne conscience que oui, on utilise la place du village, oui, on est là pour créer une vie de village et apporter tout ce qu'il faut à nos administrés, mais on n'est pas là non plus pour user et abuser de tout ce que la mairie peut donner. Donc voilà, c'est une décision que nous avons prise collégialement et je vous demande de poser des questions si vous en avez, sinon nous passons au vote.
Juste une petite question. En gros, qu'est-ce que cela engendre comme ressources et quelle sera l'utilisation de ces recettes donc?
Ça sera pas grand chose, hein, ça sera vraiment pas grand chose, alors peut-être qu'on pourra, je sais pas.
Il faudrait calculer le mètre.
Je sais pas, même pas remplacer un banc, parce qu'un banc de la place coûtera bien plus cher, même pas une poubelle de la place, donc je sais pas. C'est vraiment.
Ça simplifie pas de le faire, tout ça, parce qu'après vous pouvez le laisser, mais le problème, si tu veux, c'est que. Il y a besoin d'un règlement aujourd'hui, tous les marchés sont payants, donc il faut participer aussi, ça fait voir l'électricité, c'est pas grand chose, mais c'est normal que les gens participent. Et puis ça va être pas simple parce qu'il va falloir. Il va y avoir des abonnés, mais il n'y a pas que. Il y a très peu de passagers. Il y a un petit celui qui vient avec les chaises avant-payer, il prend 2 mètres. Hein, il va falloir encaisser des petites sommes de réduction. Mais il faut le faire.
Moi, je pense qu'il est important de responsabiliser les commerçants. Je pense sur tous les marchés, il y a des placiers. Donc, je ne vois pas pourquoi, mon ferrier, il n'y a pas de placier.
On a l'objectif de l'étoffer quand même.
On aimerait l'étoffer.
On veut l'étoffer parce que là, ça se meurt. Plus ça va, moins monde. Ils sont entre eux, là. Alors, ils ne sont pas toujours d'accord. Hein. Vous allez entendre des sifflements parce que dès qu'on va mettre un concurrent, ça va monter au créneau, et on fera une commission et on en parlera. Mais on ne peut pas les laisser entre eux. Et...
Oui, moi j'avais juste une demande de précision concernant ces tarifs. C'est au marché, c'est-à-dire quelqu'un qui vient deux fois dans la semaine, il paye deux fois ces tarifs-là ou...
Oui.
C'est ça, c'est à chaque fois qu'il est présent, il paye. D'accord. Donc il paye double s'il vient deux fois.
Oui.
Ok, c'est juste parce que c'était pas forcément complètement clair dans la façon dont c'était rédigé.
C'est pas, c'est pas
si c'était par semaine ou si c'était par marché.
Tout ça, c'est par semaine parce qu'il vient ici.
Et parfois le fleurisme.
Donc peut-être qu'il faudra leur ajouter que c'est par marché et ça évitera les discussions. Et dernier élément, bon, ce sont des tarifs qui nous apparaissent pas chers, mais c'est normal. La question c'est quoi les droits de place, juste à titre de comparaison sur d'autres marchés.
On est à ces prix-là. On est à ces prix-là, voire légèrement un petit peu plus cher, mais pas tant que ça.
D'accord, même sur Montpellier, c'est pas plus cher que ça.
Après, je parle des marchés, je parle pas quand il faut des actions sur la place de l'après-midi, tout ça, c'est différent. Mais le marché, tu vas à Saint-Denis, tu vas à Saint-Clément, il y en a même qui font payer juste un euro symbolique. Normalement, c'est ça, on est à les tarifs, on s'est basé à les tarifs qui se font. Latte et Saint-Clément, j'ai pris comme référence.
Latte, un gros marché,
oui.
Et Saint-Clément, un petit peu plus petit. Non, notre problématique, ça va être le placier. Hein. Notre problématique, ça va être de tous les mardis et tous les samedis matins récupérer 3 euros. Enfin, j'exagère, mais oui. 10 euros. Donc, et on a envisagé à un moment donné de prendre une petite jeune fille. C'est pas possible.
Non, mais dans le règlement, il est parlé que les commerçants habituels peuvent payer par trimestre.
Ah oui, non, mais pour les commerçants habituels, oui, il n'y a pas. Mais il faudra quand même un placier obligatoire parce qu'il arrivera au dernier moment, le commerçant. Il arrivera peut-être à 8h15 et il dira, bon, ben moi, je voudrais m'installer. Donc le placier, il faut qu'il soit là. Donc ça, ça va être assez problématique, je pense. Mais tout problème a une solution. Donc je pense qu'on y arrivera. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, le cinquième point, c'est l'adoption du rapport de la commission d'évaluation des charges transférée à la métropole, donc le rapport de la CLEPT du 5 octobre. Madame Lagueffol, si vous voulez bien présenter.
Alors, la CLEP, comme vous le savez sûrement, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées donc à la métropole en ce qui nous concerne. Et cette commission est chargée donc d'évaluer le montant des charges qui ont été transférées afin de calculer le montant des attributions de compensation des différentes communes à reverser donc à la métropole. Cette réunion du 5 octobre avait pour but en premier lieu donc d'élire le président et les deux vice-présidents de cette commission, puisque le mandat arrivait à leur terme, et ensuite d'établir l'évaluation relative au nouveau transfert de charges intervenu depuis la CLEP de 2019. Car effectivement, il y a eu des communes qui ont souhaité changer d'option quant à leur transfert de charges, c'est-à-dire que ces communes, jusqu'à présent, n'avaient que l'option 1 qui concernait donc les attributions de compensation relatives au fonctionnement et pas relatives à l'investissement voirie. Donc ces communes ont souhaité maintenant intégrer l'option 2 pour pouvoir bénéficier donc de la commission de compensation bonifiée relative à la CVOIRE. Et ensuite, il y avait aussi d'autres transferts et correctifs, des correctifs qui portaient sur les dettes qui ont été reprises par la métropole. Et des transferts concernant des attributions qui avant étaient exercées par les communes et qui ont été reprises par la métropole et donc il fallait faire un réajustement à la matinée. Donc toutes ces mesures sont venues donc modifier les attributions de compensation provisionnelle qui avait été faite en début d'année lors de la réunion du 5 février, il me semble. Premier sujet. Voilà, nous avons validé ce rapport qui maintenant donc, vous a été transmis par vote pour que vous puissiez l'adopter en conseil municipal.
Il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ?
Avez-vous des questions sur ce
sujet ? Oui, moi j'avais juste une question de compréhension. Qu'est-ce qui fait que 12 communes ont opté pour l'option 3 au niveau de la CI Voirie ?
Alors, il s'agit de l'attribution de compensation investissement. Hein. Donc, la question s'était posée il y a quelques années de savoir si on optait pour une ou l'autre. Nous, on a opté pour l'option, si vous voulez, de conserver la part investissement en fonctionnement. On verse chaque année 37 506 euros à la métropole et la métropole abonde du même montant. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette option, puisque si on avait, en fait, l'avantage de le transférer du fonctionnement à l'investissement dans notre budget, ça a amélioré notre marge brute d'autofinancement. Mais on perdait, en contrepartie, on perdait l'abondement de la métropole.
Donc les 12 communes qui ont choisi, c'est juste...
Et les communes qui avaient...
Présentations budgétaires un peu différentes.
Exactement. Okay, exactement. Et on fait marche arrière parce qu'ils se sont dit, c'est quand même idiot de perdre cet abondement. Voilà. D'autres questions ?
Nous allons passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Le point suivant, attribution de compensation 2021, suite à la collecte du 5 octobre. Bernard ?
Ben, écoute, c'est le montant. Hein, c'est le montant qu'il y a. Alors, je vous le redonne. Hein. Donc, en fait, oui, pardon. En fait, si vous voulez, donc on verse actuellement une attribution de compensation de 634 170 euros, hein, on dit. Elle est comprise. Dedans, il y a deux choses. Il y a l'attribution de compensation 2014 qui représente 249 875 euros. Et depuis 2017, depuis le transfert des compétences voirie, on a 384 295 euros à verser. Dans cette somme-là, il y a 287 217 qui représentent du fonctionnement et 97 078 qui représentent de l'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quelles que soient les sommes qui sont payées par la métropole pour assumer ces nouvelles compétences, la somme ne bouge pas. Par contre, en ce qui concerne l'investissement, il y a un budget prévisionnel qui est établi chaque année et en fait on défalque de ces sommes-là les dépenses qui sont d'investissement réellement qui sont dépensées. Il faut savoir aussi que à ces 97 000 euros, alors la voirie ça ne représente que 81 411 hein. Après il y a 3 051 euros qui sont versés pour le PLUI et il y a 12 616 euros qui sont versés pour le SDIS, c'est-à-dire pour le remplacement des hydrants. Hein. Donc, en fait, nous, c'est 81 411 qui nous intéresse. À ça sont rajoutés le FCTVA de l'année précédente, puisque sur l'investissement, la métropole encaisse le FCTVA. La taxe d'aménagement aussi, puisqu'on laisse 20% de la taxe d'aménagement à la métropole et on récupère 80%. Et ensuite, les ACI, donc les 37 506 plus les 30 000 euros que verse la métropole. Alors par exemple pour le budget de l'année 2021, on avait un budget total, vous voyez, de 398 684 compte tenu des reports de l'année dernière qui n'avaient pas été utilisés. Donc ça nous permet, ça, de pouvoir envisager de faire, par exemple, des réfections de route un peu plus importantes, etc. Hein? Parce que si on n'avait que les 80 000 euros, on ne pourrait rien faire. Hein? Voilà. Alors il faut savoir aussi qu'il y a les fonds de concours. où on peut, sur un gros projet, verser 45%. C'est-à-dire qu'on peut prendre dans le budget investissement 45% et le verser à la métropole si vraiment on avait un gros, gros projet de route à faire ou de voilà. Donc, en fait, c'est 634 870 donc, qu'on nous demande de voter. Donc, pour l'instant, on était à la métropole ce matin. Et pour l'instant, il y a la question a été posée de savoir, parce qu'on entend parler depuis un moment que les AC ne sont plus représentatifs pour certaines communes qui ont beaucoup augmenté. Il semblerait que pour l'instant, il n'ait pas l'intention, si vous voulez, de les augmenter de façon comme ça. Hein. Donc, par contre, il risque de demander au maire de savoir si le service qui est rendu est suffisant, ou s'il faut l'augmenter. Et dans le cas où les maires ont, par exemple, eu de... Par exemple, je prends Jacou, par exemple, ou Clapier, où il y a eu beaucoup, beaucoup de constructions qui ont été faites. Et d'ailleurs, Renaud Calvin le disait ce matin, il dit, moi, j'ai fait des quartiers entiers, une ville neuve, et je comprends qu'à un moment donné, ce n'est pas les trois pèlerins qu'il y a qui viennent, qui sont capables d'entretenir tout ça. Donc il dit, à ce moment-là, moi, je proposerai de verser davantage. Alors, à ce moment-là, c'est un petit peu différent, c'est peut-être ce qui va se passer. Voilà. Mais arbitrairement, il semblerait qu'on ne nous augmente pas les AC arbitrairement, ce qui est déjà une bonne chose.
Vous avez des questions autres? Nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc le point suivant, le temps de travail à 1607 heures. Donc je reprends ce point que M. Lafabrière aurait dû vous expliquer. Je vais être assez succincte. Donc nous avons une obligation à partir de janvier 2022 de mettre en place les 1607 heures dans les collectivités territoriales. C'est une loi de 2019 qui demandait à toutes les nouvelles assemblées délibérantes de mettre ça en place assez rapidement, avec une date limite de janvier 2022. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire. Donc il a fallu un petit peu réfléchir, voir quels étaient les horaires effectués par les agents, et ensuite arriver à comprendre si nous étions loin, près, si nous pouvions mettre ces 1607 heures en place. Donc ces 1607 heures, comme il est écrit, vous avez un nombre total de jours, bon, 365 jours. Vous avez 2 jours par semaine sur l'année de repos, donc on les enlève, 104 jours. Vous avez des congés annuels, 25 jours. Des jours fériés, 8. On arrive à 228 jours travaillés. Ces 228 jours multipliés par 7 heures, on arrive à 1596 heures et l'État a donc proposé 1600 heures de travail, arrondi à 1600 heures. Plus la journée de solidarité de 7 heures, 1607 heures. Sachant que vous avez, au sein des collectivités territoriales, vous avez des agents qui sont dans les services administratifs, techniques, à la bibliothèque municipale et à la salle culturelle du Délézou, qui ont des horaires bien définis et qui font leurs 35 heures par semaine, comme tout le monde. Après, vous avez des agents où c'est plus difficile et où on a été obligé d'annualiser. Ce sont tous les agents qui sont aux écoles et qui font le ménage et qui ne travaillent pas pendant les vacances scolaires. Donc, nous avons annualisé leur temps de travail pour qu'ils puissent faire ces 35 heures par semaine. Et nous les avons annualisés en leur demandant, par exemple, d'intervenir pendant les petites vacances pour... du ménage complet des salles et à l'été pour faire le grand ménage des deux écoles, ce qui permet de nous devoir 90 heures l'été et 18 heures à chaque vacances scolaires, qui se rajoutent donc à leur quota horaire habituel. Voilà, donc à partir de janvier 2022, donc, nous passerons aux 1607 heures. Et nous allons les mettre, alors monsieur Lafabrier, monsieur le DGS, donc petit à petit, travaille sur ce point-là pour que ce soit opérationnel au 1er janvier 2022. Avez-vous des questions?
Oui, nous avons des questions. Ça concerne principalement les articles 2 et 3. L'article 1, effectivement, il est quasiment contenu dans la loi. Sur l'article 2, ça concerne le cycle de 35 heures hebdomadaires pour les services administratifs et techniques, que vous répartissez obligatoirement sur 5 jours, du lundi au vendredi, à 7 heures par jour. Nous, on s'interroge sur deux choses par rapport à ça. Un, les plages horaires ne sont pas mentionnées, donc c'est sur quelles plages horaires? Est-ce que c'est sur les plages horaires qui sont définies hors travail de nuit, hein? Donc c'est ça qu'il faudrait savoir. Donc est-ce que c'est 8h, 18h ou est-ce que c'est 6h, 22h? Et deuxième élément qui nous semble important à nous, c'est que on bride la répartition du travail sur 5 jours. Or, nous avons toujours dit qu'il serait peut-être souhaitable dans un certain nombre de cas et peut-être dans un certain nombre de situations, que la mairie puisse être ouverte le samedi matin. Donc c'est une réflexion qui n'a... À une époque, c'était le cas. Hein. Les personnels ont souhaité ne pas travailler, et il y a eu une réduction du service auprès des citoyens, puisque maintenant la mairie est fermée le samedi matin. Moi, je pense qu'il serait temps, à partir de cette discussion qui va avoir lieu avec les personnels, de réaborder cette question-là, du travail du samedi matin, dans certaines conditions, et donc de proposer pour cela une organisation du cycle de travail sur 6 jours, ce qui ne veut pas dire que tous les personnels travailleraient sur 6 jours, hein, mais il serait possible de travailler pour certains personnels le samedi matin, à contrario d'un mercredi où elles ne travailleraient pas. Ou... Voilà. Donc, est-ce que ces choses-là ont été discutées avec les personnels municipaux? Est-ce que c'est une évolution du contrat qui peut être proposé par la suite, ou est-ce que dès maintenant, on ouvre la possibilité de le faire, ce qui ne veut pas dire que ça va être fait, hein, on est bien d'accord. À partir du moment où on fait, on fixe un contrat de temps de travail, on ouvre une possibilité. Après, on peut l'utiliser ou pas, et il y a une phase de négociation avec le personnel qui est indispensable. Mais cette ouverture sur le samedi matin nous semble intéressante, et de la même façon pour les plages horaires journalières, il pourrait être intéressant dans un certain nombre de cas que les horaires soient étendus, en soirée par exemple, peut-être de la même façon qu'on le réclame pour d'autres services, dans certaines situations aussi. Donc ça, c'était pour l'article 2, qui concernait les services administratifs et techniques. Pour les articles 3, qui concernent les autres catégories de personnel, on s'est posé la question parce qu'il nous semblait qu'il y avait un certain nombre de personnels qui n'étaient pas dans cette catégorie-là, mais qui pouvaient être impactés par cette indemnisation. Je pense notamment à Jean-Michel Guzman, qui s'occupe de l'unité des eaux, avec des horaires, des travaux, des fois le samedi ou le dimanche. Donc est-ce que cette personne fait partie du service administratif et technique, a priori plutôt du service technique, donc elle serait plutôt sur un rythme de 5 jours. Donc ça veut dire que son temps de travail le samedi et le dimanche, ce sont des heures supplémentaires, enfin comment tout ça est négocié. Et je pense que ces éléments-là, une fois qu'on va avoir un contrat de cet ordre-là, ça va servir de référence. Et donc a priori, on peut supposer, si les choses se font légalement, qu'avec un travail sur 5 jours, tout travail effectué en dehors de ces 5 jours soit considéré comme des heures supplémentaires.
Sur Jean-Michel Guzman n'est pas assimilé au service technique, il est assimilé au service administratif, donc il travaille du lundi au vendredi. Quand il intervient le samedi et le dimanche pour mettre en place des tables, des chaises pour les associations, pour des événements particuliers, il récupère ses heures, il préfère récupérer ses heures parce que, comme vous le savez, il est entraîneur de foot et que en récupérant des heures, ça lui permet d'assurer ses entraînements beaucoup plus facilement. Donc il récupère, c'est sa demande. Donc Jean-Michel Guzman fait partie des services administratifs, donc du lundi au vendredi. Après, pour le samedi matin, nous n'avons pas réfléchi à cela. Pourquoi? Parce que depuis un an et quelques que je suis à la mairie, à partir du vendredi 15h, il n'y a plus rien qui se passe dans cette maison. Le téléphone ne sonne quasiment plus et les gens ne viennent pas, alors que nous sommes ouverts jusqu'à 18h. Il n'y a rien qui se passe. C'est assez étonnant. Hein. C'est vraiment... Autant le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, il y a du monde, il y a du passage, il y a le téléphone sans arrêt, des demandes, etc. Autant le vendredi après-midi, à croire que tout le monde est en RTT, que les gens ne viennent pas. Donc, bon, est-ce qu'il est utile d'ouvrir le samedi? Alors, vous allez me dire oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent toute la semaine et qui seraient contents peut-être de monter le samedi matin à la mairie pour faire des papiers, demander des choses, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été discuté avec le personnel. Voilà. Donc, je vais le soumettre à M. Lafabrier et puis on verra comment ça peut. On aura une discussion avec le personnel, de toute façon.
Donc, ma question, c'était le fait que si on vote ce soir ce texte-là, est-ce qu'on se bride définitivement, quoi?
Moi, je pense que ce soir, on est obligé de voter l'adoption des 1607 heures pour janvier 2022. On est obligé de mettre ça en place dans la collectivité territoriale. Après, il y a une répartition entre 35 heures par semaine, des jours de congé, la journée solidarité, etc. Mais je ne pense pas que cela... si nous restons dans le cadre de la loi des 1607 heures, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il n'est pas précisé. Alors, on l'a dit, là, du lundi au vendredi,
oui. 5 heures
du lundi au vendredi. Bon, après, je pense que toute adaptation est possible. Vous avez aujourd'hui des communes qui sont ouvertes le samedi.
Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'en
signant ça, vous ne vous engagez pas, enfin, on ne s'engage pas à dire les agents ne travailleront que du lundi au vendredi.
Non, je suis d'accord avec vous. On peut faire évoluer les choses. Et de la même façon que les accords qui sont passés avec Jean-Michel sont des accords à titre personnel. Et si demain il est remplacé par quelqu'un d'autre, on n'est pas sûr de trouver les mêmes accords. Donc c'est pour ça qu'en inscrivant parfois les choses dans le dur, dans le texte, ça paraît plus simple au moment du recrutement d'une nouvelle personne sur les conditions de travail. Quoi. Au moins les choses sont claires au départ. Donc voilà, notre remarque elle concernait ces deux points-là. Donc on peut adopter comme il est là, mais sauf que il me semble que si on doit modifier à l'issue de discussions avec les personnels, les modalités, ça se fera avec une modification.
Et bon, on la revotera à ce moment-là. On revotera l'aménagement des 1607 heures.
Si vraiment... je pense, oui, ça sera une obligation. Oui.
Je comprends que là, on va voter plus sur le principe et la mise en conformité que sur les détails précisément de ce qui est écrit dans le document. Néanmoins, j'avais une question relative à l'organisation et au planning des agents concernés par cette mise en conformité. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que vous avez prévu que ça allait avoir un impact sur leur planning et sur leur organisation journalière? Est-ce que vous avez réfléchi à la mise en place qui est faisable dans une mise en place de temps de travail 1607 heures d'un système de récupération pour les agents concernés, un travail sur 4 jours et demi par exemple, qui permet aux agents qui rentrent dans ce cadre de pouvoir effectuer leur quota de travail sur 4 jours et demi et d'avoir ainsi une demi-journée disponible? Et enfin, une dernière question que j'ai pas vue dans le texte, c'est ce changement va-t-il impacter le nombre de jours de congés pour les agents concernés? J'ai vu qu'il y avait 25 heures, mais ça c'est légal. Ensuite, il y a un système de jours de récupération et de cumul de jours de congés supplémentaires. Donc je voulais savoir si ça c'était envisagé également.
Sur la mise en place des 4 jours et demi, vous avez aujourd'hui du personnel qui a une demi-journée parce que les plages horaires d'ouverture de la mairie font qu'ils travaillent plus que 35 heures s'ils y étaient tous les jours selon les horaires de la mairie. Donc vous avez plusieurs personnels qui ne travaillent pas le mercredi après-midi, qui ne travaillent pas le jeudi après-midi, qui ne travaillent pas le vendredi après-midi, donc ils travaillent sur 4 jours et demi. Donc la mise en place, elle s'est faite automatiquement au vu de la plage horaire de l'ouverture de la mairie. Je pense que les anciens mandats ont souhaité avoir une mairie ouverte suffisamment de temps pour permettre à tout le monde de pouvoir y venir. Et donc, automatiquement, dépasser les 35 heures, donc les 4 jours et demi, ils sont mis en place donc, sans problème. Après, vous avez des gens qui ne demandent pas les 4 jours et demi aussi, hein, donc qui préfèrent travailler les 5 jours. Voilà, donc Ça, c'est adapté et je pense que ça tourne bien aujourd'hui au niveau, en tous les cas, administratif, ceux qui sont astreints aux 35 heures du lundi au vendredi. Ça tourne bien, il y a un équilibre qui s'est établi et donc, bon, je pense que je ne vois pas tellement l'intérêt de revenir là-dessus puisque ça tourne bien et qu'ils en sont satisfaits. Hein, ils n'ont jamais demandé de changement. Après, pour les congés, aujourd'hui, les agents ont donc, comme il est dit, 5 semaines de congés payés, normal. Et ensuite, il y a des congés en plus quand il y a des demandes particulières. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons remettre à plat l'histoire des congés parce qu'il y a beaucoup d'administratifs qui ne comprennent pas bien cette nouvelle loi et qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors c'est vrai que comme la journée de solidarité c'est un fait du maire, il y a des choses qui se sont faites un petit peu et donc voilà, il va falloir se reposer pour bien cadrer les congés, les horaires par jour, par semaine, etc. Donc ça c'est un lourd travail à faire, que M. Lafabrié a commencé d'ailleurs depuis quelques temps. Et ça pour l'instant ça se passe dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de gens qui ruent dans les brancards. Donc ça se passe bien. Voilà. Pas d'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point 8, c'est la convention territoriale globale avec la CAF. Est-ce que Marie-Hélène, tu veux dire un mot ou non? C'est comme tu veux. Donc, nous signons une convention territoriale avec la CAF de Montpellier. Nous avons eu plusieurs réunions durant le premier trimestre et même avant le mois de juin, on a commencé. On a fait deux réunions de deux comités de pilotage et plusieurs réunions. Au cours de ces réunions, nous avons eu la CAF, la mairie, nous avons eu la crèche, les câlins, les deux micro-crèches, les assistantes maternelles, le SEJ ou CEJ aujourd'hui, c'est-à-dire le centre de loisirs. Donc nous avons fait ces réunions qui étaient très instructives, en tous les cas pour moi, parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc j'ai pu écouter tout ce qui, d'abord comprendre tout ce qui se faisait sur le village, deuxièmement comprendre les attentes des uns et des autres sur... sur la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Et j'ai beaucoup discuté avec Marie-Hélène et Agnès, qui est représentante donc du CEJ, sur une demande qui était en train de naître des parents sur la parentalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup parler de parentalité, tant sur les réseaux sociaux que sur, dans les journaux, que vous avez des émissions, etc. Les jeunes parents aujourd'hui ont besoin d'échanger et de discuter du mode d'éducation qu'ils peuvent donner à leurs enfants. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, étant moi-même mère de trois enfants qui ont des enfants, et je sens bien qu'il y a une demande de cette génération. Donc, ça va être le projet mené par le CEJ pour les années à venir, la mise en place d'un opus parentalité avec la possibilité de créer des lieux de rencontre entre parents pour discuter des problématiques d'enfants ou tout simplement discuter entre eux d'autres choses, mais de se sentir un petit peu épaulé par les uns et les autres. Donc nous allons travailler sur la parentalité. J'ai demandé aussi, nous avons été contactés par une association qui s'appelle Altepousse et qui est très concernée par tout ce qui est accompagnement des parents pour leurs enfants porteurs de handicap. Et j'ai trouvé que c'était nécessaire aussi parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants porteurs de handicap et qui ne savent pas où s'adresser, comment faire, comment monter un dossier, comment les accompagner en classe, peuvent-ils les mettre dans les centres de loisirs, dans les crèches, enfin bon, etc. Je trouvais que c'était très important. Donc nous avons rencontré cette association, Altepousse, et il y a un projet qui va se mettre en place normalement courant 2022. Donc il va y avoir une formation des animateurs du centre de loisirs. Et il va y avoir donc une écoute qui va être mise en place et un accompagnement de ces parents-là. Donc voilà, c'est une belle action, je pense, qui va être mise en place en 2022. Donc cette convention, nous sommes donc obligés de la... Enfin, pas obligés, mais nous l'avons signée avec des projets. Et ces projets, c'est justement un plan d'action 2021-2025. Et ce plan d'action, c'est renforcer tout ce que nous avons au niveau de la petite enfance. Et c'est vrai qu'au niveau de la petite enfance, je trouve que manque peut-être un petit peu de place. Au niveau du centre de loisirs, donc tout ce qui est pérenniser les actions du centre de loisirs, mais aussi en développer, en trouver d'autres. Au niveau des ados, je pense que c'est un groupe qui marche très très bien et très fort. Donc les aider, les accompagner peut-être pour améliorer encore cette action au niveau de cet espace jeune et créer la parentalité au niveau de la commune. Voilà. Vous l'avez lu, hein, vous l'avez eu tous, la convention, donc vous l'avez lu. Est-ce que vous avez des questions particulières auxquelles je pourrais répondre?
Oui, j'ai quelques questions. Voilà. Cela dépend, bon, je comprends bien, de la commission sociale enfance, jeunesse et seniors. Donc, c'est une grande commission. Donc, je regrette par ailleurs qu'elle se réunisse peu, puisque, mis à part l'adoption du budget, on ne s'est pas réunis. J'ai lu le texte là, et je vous ai écouté également. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et moi, je me demande quelles sont ces réunions. J'ai jamais été informé de réunions. Des projets, les membres de la commission n'en ont pas été informés. Qui a réfléchi à cela? Étant membre de la commission, je n'ai pas été informé non plus. Qui est dans ce comité de pilotage, etc. Donc, vous nous indiquez beaucoup d'éléments qui sont très bien, je ne le nie pas. Ce que je regrette, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas été associé, je ne sais pas si Michel Bourrelli ou autres membres ont été associés, aux discussions qui pourraient avoir lieu dans le cadre que vous avez énoncé. Je insiste une fois de plus, cette commission est très large, hein, puisque c'est l'enfance, la jeunesse, les seniors, le social. Hein. Alors, mis à part, je dois dire, le groupe de travail et analyse des besoins sociaux, où nous sommes quatre, donc deux membres du conseil municipal, Madame Jamais, mis à part l'ABS, le reste, c'est pour adopter du budget. Et il n'y a aucune réunion. Donc je demande, parce qu'il est possible qu'à l'avenant, on puisse se réunir davantage pour ne serait-ce qu'être informé d'abord sur les projets que vous venez de lancer et qu'on puisse participer, donner notre avis, voire enrichir, etc. Vous avez noté le handicap. Si vous voulez, je suis très impliqué dans ce qui est le handicap mental, notamment. Et à l'occasion, je pourrais peut-être donner quelques indications supplémentaires ou complémentaires, etc. Voilà, je vous remercie.
Le comité de pilotage, comme je vous l'ai dit, nous étions 16 personnes. Donc, ce sont des réunions qui se sont faites en plus à des moments où, avec la Covid, ce n'était pas évident de se réunir. Et donc, 16 personnes, c'était quand même beaucoup. Donc, on ne pouvait pas y associer la commission complète. Ce qui fait qu'au niveau mairie, il y avait uniquement la responsable du centre de loisirs qui coiffe la petite enfance, les jeunes enfants et l'adolescence, et Madame Cabas qui est plutôt adjointe à la commission sociale. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de monde. On a réfléchi à un moment donné d'ouvrir davantage, et c'est vrai que la CAF nous a recommandé, et d'ailleurs ce jour-là, il y a deux personnes, aux deux comités de pilotage, il y a deux personnes qui sont parties parce que nous étions beaucoup trop nombreux. Donc les réunions se sont faites avec tous les impétrants du village, hein, c'est-à-dire toutes les crèches, on n'a oublié personne, les assistantes maternelles, enfin je pense que tout le monde a été concerné, et tout le monde a bien exprimé tout ce dont il avait besoin, ses problématiques, et je pense que tout le monde a été bien entendu. Alors voilà, ça s'est fait comme ça. Peut-être qu'on aurait dû vous faire un compte-rendu de ces réunions. On veillera dorénavant à faire des comptes-rendus de ces réunions où déjà nous sommes nombreux. Quand nous sommes quatre, ce n'est pas un problème. Mais là, c'est vrai que tout le monde était réuni et on était 16 personnes, ce qui était beaucoup. Et au bout d'un moment, quand on est très nombreux, c'est la cacophonie, tout le monde s'exprime et on n'avance pas. Donc ça a été une demande de la CAF. De vraiment, il y avait deux personnes de la CAF, deux personnes de la mairie, Donc ça a été vraiment bien cadré par la CAF. Donc nous essaierons de faire dorénavant des comptes rendus écrits de ce qui se passe. Voilà.
Non, je voulais dire que on était exactement dans la même position que nos collègues de l'opposition et que j'avais proposé justement, c'est qu'au moins soit fait des comptes rendus pour qu'on puisse donner un avis, si tant est qu'on ait un avis à donner, sur des choses que peut-être on ne maîtrise pas, mais au moins que nous, on aurait bien aimé apprendre, comme tu l'as fait, beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et là, on est désolé, parce que là, d'ailleurs, on se pose la question, mais là, la convention, elle n'est pas associée au document-là. La convention dont il est question, là.
Là, vous n'avez pas ce document.
C'est ce document, la convention.
Bien sûr, tout est.
Ah, d'accord, c'est ce document sur lequel on demande d'accord. Ok, je l'ai vu dedans, ça va.
Tout à fait.
Voilà. Donc je prends acte, en tout cas, que dorénavant, on aura au moins des comptes rendus.
Après, on va vous faire des comptes rendus. Bon, je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. Après, les questions que vous nous poserez ou que vous poserez à Mme Cabas, si ce sont des questions trop spécialisées, à ce moment-là, il faudra se rapprocher, donc on contactera la CAF, parce que c'est la CAF qui doit répondre à toutes les questions qui concernent la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, la parentalité, etc., etc. Parce qu'il est évident que nous ne connaissons pas tout ce qu'il en est. Donc, quand on fera des comptes rendus, si vous avez des questions à poser, elles seront notées, et ensuite, on se rapprochera de la CAF pour vous donner toutes les réponses. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pardon. Deux abstentions. Trois abstentions. Monsieur Prosperi, Monsieur Bourrelli et Madame Gelsomino. Le point 9, donc, c'est la signature du compromis de vente avec la société Amétis. La société Amétis, c'est la société qui doit construire les logements en face de Caudalie. Donc cette société, je vais vous refaire l'historique, mais enfin bon, cette société, ça fait 5 ans qu'elle travaille sur ce projet. Elle est partie sur un projet beaucoup plus conséquent. Ensuite, il y a eu les élections. Ensuite, il y a eu la Covid. Ensuite, il y a eu les nouvelles réglementations de la métropole, c'est-à-dire tout ce qui concerne les EMBF, c'est-à-dire l'inconstructibilité de chaque côté du lit des fleuves ou des ruisseaux. Il y a eu l'interdiction de faire des bassins de rétention dans des zones inondables et encore plus EMBF. Donc il y a eu beaucoup de contraintes. Au bout d'un moment, la société Amétis commençait à se poser la question de savoir si le projet verrait un jour le jour. Et c'est vrai qu'au vu de toutes ces contraintes, la société Amétis a été obligée de réduire son projet. Et nous sommes descendus à 43 logements. Donc, au vu de la diminution des logements, ils ont diminué leur surface de terrain à acheter. Et donc, la proposition que nous fait Amétis aujourd'hui pour 3400 m² de terrain, Amétis nous propose 465 000 euros. Nous avons donc été obligés de refaire évaluer ce terrain par les domaines puisqu'il y a eu modification de l'assiette foncière. Et les domaines nous ont donc donné une évaluation à 528 480 euros avec une marge de négociation de plus ou moins 15%. Donc aujourd'hui, je vous demande de voter le prix de vente de ce terrain de 465 000 euros à la société Amétis pour la construction des logements en face de la piscine. Est-ce que vous avez des questions?
On aimerait intervenir sur ce projet de de construction, date de la municipalité précédente, ça nous a fait beaucoup discuter dans, le, dans notre propre groupe, au point que nous n'étions pas d'accord. Vous savez, on a voté différemment quand il y a des questions de voter sur ce sujet-là. Moi, je suis toujours favorable à ce projet, mais je me souviens de l'avoir dit dans un autre conseil municipal, je trouverais extrêmement important de réfléchir à ce que la municipalité veut faire de l'ensemble de cette zone. Parce que là, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 40 logements sociaux dans l'ancienne distillerie. Il va s'en construire une vingtaine là. 40 mais 20 uniquement, puisqu'il y en aura 40 pendant 5 ans, et puis au bout de 5 ans, il ne restera plus qu'une vingtaine ou 23, je ne sais plus lequel est le bon chiffre, 20 ou 23. Il va se construire des logements sociaux, il y a de grandes chances, derrière la chapelle du Bayarguet. Autrement dit, on est en train de faire une espèce de cité de logements sociaux éloignée du centre de la, du village. Et il va y avoir la caserne des pompiers, enfin, tout ça est en train de se construire par l'espèce de petit bout qui se pose là, le lotissement de, comment s'appelle, du fait libre, qui avait commencé par une personne qui n'avait même pas déposé de permis de construire il y a quelques années. Ce lotissement est posé comme une espèce de verrue quelque part au milieu de la nature, là, et il n'y a aucune réflexion de ce qu'on veut faire de cet ensemble de ce territoire. Et je pense que ce serait important d'y réfléchir, parce que finalement, on va répondre à des demandes comme ça, sans déterminer nous-mêmes ce qu'on aimerait voir s'installer là. Peut-être que s'il y a tant de monde que ça, il va peut-être falloir mettre une nouvelle crèche là. Il va certainement falloir peut-être mettre des quelques classes de des écoles, je sais pas, peut-être maternelles ou élémentaires, je sais pas, de l'ensemble du primaire. En fait, il y a des choses qui me semblent sont importantes à réfléchir, parce que sinon, on va se retrouver avec une population là relativement importante et qui n'aura pas, qui ne pourra pas bénéficier des mêmes services que dans le reste du village. Donc, je pense, on n'en a pas discuté, hein, mais là maintenant, je reviens là-dessus parce que le compromis de vente nous est posé. Du coup, ça me refait. Ça nous a refait réfléchir à ça, et je pense que c'est important qu'en commission d'urbanisme, on se mette à faire un travail là-dessus, et ça veut dire que ce n'est pas qu'un travail que l'on doit faire, nous, élus. Je pense que dans le mandat précédent, en tout cas, j'espère que ce sera différent là, mais c'est souvent les élus qui réfléchissent à comment faire les choses. Ça s'est passé pour les cimetières, ça s'est passé pour d'autres trucs. Je pense que dans quelque chose comme ça, on a vraiment besoin d'avoir affaire à une urbanisme, d'avoir affaire à des, je sais pas, quelqu'un qui est dans le domaine de la sociologie, pour pouvoir réfléchir avec toutes les données possibles ce que peut devenir cette zone-là, pour ne pas en faire un truc à part.